Voici le journal de Sébastien Logeni. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, Donald Trump choisit la manière forte. Retrait fracassant hier des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en face. L'Iran temporise et veut sauver le texte. Mais les sanctions commerciales inquiètent déjà les milieux d'affaires à Téhéran. Reportage dans ce journal de notre envoyé spécial. Et puis tour d'horizon des réactions des chancelleries au Moyen-Orient et en Europe. Washington face à Téhéran. Que peut-il se passer maintenant? On y revient avec vous Marc. À 8h20, vous recevez un ancien ministre des Affaires étrangères.
Invité du grand entretien de France Inter, Hubert Védrine. Quelles conséquences de ce retrait? L'accord est-il encore sauvable? Quels risques pour la région, mais aussi sur les prix du pétrole notamment? Enfin, en quoi ce qui se passe aujourd'hui en Iran nous concerne tous? On attend vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000.
Au programme également dans ce journal, une information France Inter. Le suspect de l'attaque du Thalys en 2015 parle à ses juges et avoue avoir abandonné son projet. Récit dans un instant. La réforme des institutions au menu du Conseil des ministres, une réforme qui fâche les députés. Retour sur l'accident de la voiture autonome d'Uber en Arizona. Il y a quelques mois, la voiture a choisi de ne pas éviter la femme qui traversait la route. Explication. Et enfin, direction Cannes, en fin de journal, avec le premier film en compétition, un film russe d'un réalisateur emprisonné par Moscou.
France Inter.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
Voilà, il était un peu plus de 20h hier soir, déclaration de Donald Trump depuis la diplomatic room de la Maison Blanche. Le ton est glacial, les États-Unis se retirent de l'accord nucléaire iranien. Donald Trump qui avait le choix entre l'option douce et l'option radicale, il a finalement choisi de déchirer cet accord avec fracas, un texte abominable, pourri, vicié selon lui, avec un corollaire, le retour de toutes les sanctions contre Téhéran. De l'autre côté du globe, réaction immédiate du président iranien Hassan Rouhani. Pas question pour le moment de déchirer l'accord de 2015.
J'ai ordonné au ministère des Affaires étrangères que dans les semaines à venir, nous discutions avec les pays européens, ainsi que la Russie et la Chine, pour trouver les solutions qui s'imposent. Ce que Trump a fait, c'est une guerre psychologique et une pression économique. Nous ne laisserons pas Trump gagner cette guerre et cette bataille économique face au peuple iranien.
Hassan Rouhani, le président iranien, qui n'exclut pas toutefois de reprendre les activités d'enrichissement nucléaire sans aucune limite, dit-il, si nécessaire. Concrètement, le retrait total de Washington, cela signifie d'abord le retour de toutes les sanctions économiques et commerciales contre l'Iran, avec effet immédiat pour les nouveaux contrats en cours. En clair, ce sont des dizaines d'entreprises dans le monde qui sont menacées par de très lourdes amendes du Trésor américain, Boeing, General Electric, mais aussi Total, Airbus, Renault ou Volkswagen. Autrement dit, la décision américaine va plomber l'économie iranienne, déjà très fragile. Écoutez le reportage à Téhéran de notre envoyé spécial, Franck Madvon.
Les experts défilent sur les plateaux télé. La chaîne IRIN, proche du pouvoir, dénonce dans un bandeau les mensonges de Trump. L'annonce du président américain est presque le seul sujet des médias nationaux. L'accord sur le nucléaire est populaire en Iran. L'opinion et le gouvernement s'y retrouve, même si la frange la plus dure du régime estime que Téhéran a fait trop de concessions. Les Iraniens redoutent désormais une dégradation de l'économie. Le rétablissement des sanctions américaines va priver l'Iran d'investissements étrangers. Aryabhod Denad est franco-iranien. Il conseille des entreprises souhaitant s'installer en Iran.
Même avant cette décision, depuis quelques semaines, on voit bien que la monnaie locale a perdu énormément de sa valeur. Les entreprises européennes avaient de plus en plus de mal ces derniers mois à s'installer en Iran. Si les Européens quittent le pays, il ne restera plus que les Russes et les Chinois, donc ça représente une baisse d'activité. A priori, ce n'est de toute façon pas une bonne décision pour le climat des affaires en Iran.
Téhéran, Franck Madvon, France Inter.
De leur côté, les capitales européennes, Berlin, Londres et Paris regrettent la décision américaine, mais ce matin, réaction de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. L'accord, dit-il, sur le nucléaire iranien n'est pas mort, malgré la décision américaine. Les Européens sont donc déterminés à assurer la mise en œuvre de ce texte, mais aussi à travailler sur un nouvel accord avec Téhéran, un accord encore très incertain. Donald Trump ouvre donc une nouvelle ère d'instabilité. Les chancelleries du monde entier ont réagi hier soir. Tour d'horizon des inquiétudes et des satisfactions avec nos bureaux à Beyrouth, Berlin et Londres.
Au Moyen-Orient, la décision de Donald Trump a suscité la colère de la Syrie. Allié de l'Iran, le régime de Bachar el-Assad l'a condamné avec force et l'a qualifié d'agression. Changement de ton en Arabie Saoudite, ennemi juré de Téhéran, Riyad où la détermination du président américain a été saluée, le royaume wahhabite compte sur les États-Unis pour faire reculer le régime iranien au Yémen, au Liban et en Syrie.
À Berlin, la remise en cause de l'accord fait trembler les entreprises allemandes qui ont beaucoup misé sur la réouverture du marché iranien. Le BDI, la Fédération des entrepreneurs, a appelé dès hier soir les pays signataires à sauver l'accord. Avec 2,6 milliards d'euros d'exportation en 2016, l'enjeu est considérable. De son côté, le nouvel ambassadeur des États-Unis à Berlin a exprimé très clairement sur Twitter la position de Washington. Les entreprises allemandes devraient, dit-il, cesser immédiatement leurs activités en Iran.
À Londres, Boris Johnson espère encore sauver l'accord signé avec l'Iran. Le Royaume-Uni travaillera pour le maintenir, explique le ministre des Affaires étrangères. Reste à savoir comment. En théorie, il est possible de contourner les États-Unis. C'est déjà arrivé en 1996, lorsque le Congrès américain a voté des sanctions contre l'Iran et la Libye. Mais le contexte a changé et au moment de quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni peut difficilement se fâcher avec Washington.
Et puis on vient d'apprendre que les ministres français, allemands et britanniques des Affaires étrangères allaient rencontrer lundi prochain les représentants iraniens. L'État hébreu, pour sa part, est l'un des rares pays à se féliciter de la décision américaine. Quelques heures à peine après les déclarations de Trump, un missile israélien tuait 9 combattants iraniens en Syrie. C'est en tout cas l'accusation portée par le régime de Damas, qui dit aussi avoir intercepté 2 autres missiles de Tsahal.
Le retrait américain de l'accord sur l'Iran, ses conséquences, on y revient après ce journal dans la chronique de Bernard Guetta. Et puis avec Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, invité du Grand Entretien à 8h20.
Toujours en bref à l'étranger, dans une étrange symétrie, le chef de la diplomatie américaine est arrivé ce matin en Corée du Nord, Mike Pompeo. Il va pour préparer le sommet Trump-Kim Jong-un à Pyongyang, qui devrait notamment accepter de libérer 3 Américains retenus prisonniers depuis des mois.
Il est 8h07, exclusivité France Inter, les remords d'un djihadiste de Daesh.
C'était en 2015, Ayoub El-Kazani monte à bord d'un Thalys armé d'une Kalachnikov et d'un cutter pour tuer des Américains, mais finalement il renonce. Voilà ses aveux, les aveux du suspect de l'attaque d'août 2015 prononcée en novembre dernier devant un juge d'instruction. France Inter a pu consulter l'audition d'Ayoub El-Kazani, une information rare car pour la première fois dans un dossier de terrorisme, l'auteur parle et tente d'expliquer ce qui lui a traversé l'esprit au moment des faits. Charlotte Piret.
J'ai pas pu tuer. C'est ainsi qu'Ayoub El-Kazani s'explique devant le juge d'instruction. J'avais 2 armes avec moi. Intérieurement, j'étais détruit psychiquement, mais à la dernière minute, je n'ai pas pu. Avant de monter dans ce train, Ayoub El-Kazani se rend en Syrie. Il rencontre Abdelhamid Abaoud, le coordonnateur des attentats du 13 novembre et de l'attaque du Thalys, car c'est lui qui pilote le Marocain de 2 ans son aîné. Les 2 hommes parcourent ensemble le chemin qui les ramène vers l'Europe, logent dans la même planque à Bruxelles. Puis un jour, Abaoud transmet les ordres de Daesh. Il m'a dit que la cible était le Thalys où je devais attaquer des Américains, explique le djihadiste, qui suit alors les consignes, acheter un billet pour le train de 17h, monter dans la rame 12. Là, je me suis dirigé vers les Américains, raconte-t-il. À un moment, un grand m'a fixé, je l'ai vu de face, je n'ai pas pu le tuer. Ayoub El-Kazani, qui a cependant fait plusieurs blessés, explique aussi avoir refusé une ceinture d'explosifs. J'étais contre le fait de massacrer des gens, dit-il au juge, tout en ajoutant, après avoir vu tout ce qui se passe en Syrie, j'ai regretté de ne pas avoir tué.
Charlotte Piret du service police-justice de France Inter. L'université du Mira est bloquée depuis plus de 2 mois, a été évacuée cette nuit par les CRS. Évacuation en à peine 20 minutes, pas d'incident signalé. Des étudiants l'occupaient depuis le 6 mars dernier en signe de protestation contre la loi modifiant l'accès à l'université. Notre reporter sur place nous informe toutefois de 3 blessés légers dans un affrontement entre policiers et étudiants devant la gare Matabio. Comment relancer le mouvement à la SNCF? L'intersyndicale se réunit cet après-midi pour tenter de donner un nouvel élan à la grève des cheminots. La CGT envisage de s'inspirer du conflit Air France et de demander un référendum auprès des 150 000 salariés du groupe ferroviaire.
La réforme constitutionnelle arrive ce matin sur la table du Conseil des ministres.
Avec 2 volets, le volet justice, la suppression de la Cour de justice de la République et une réforme a minima du statut des procureurs. Et puis, 2e axe, la réforme des institutions solution ou comment le gouvernement tente de rationaliser et d'accélérer le travail parlementaire, un texte qui heurte de plein front les députés. Yael Gauz.
Un parlement trop lent pour un président pressé d'avoir des résultats, d'où les mesures anti-amendements contenues dans la réforme, exit par exemple ceux qui n'ont aucun rapport avec le texte débattu, d'où cette volonté aussi de raccourcir les délais d'examen, 50 jours au lieu de 70 pour les projets de loi de finances, gain de temps pour les partisans d'Emmanuel Macron, ingérence grave pour ses opposants, qu'ils soient députés communistes comme André Chassaigne ou président du groupe Les Républicains au Sénat comme Bruno Retailleau.
Il le fait par exemple avec la reprise en main sur l'ordre du jour du Parlement. On est un des seuls parlements de la zone européenne à ne pas maîtriser totalement l'ordre du jour. Eh bien, Emmanuel Macron va en rajouter. Il y a un syndrome de toute-puissance, mais il faut que les institutions puissent résister à ce genre de tentation.
Tout ça, c'est ce que j'appellerais une république monarchique, un coup porté à la séparation des pouvoirs.
Réponse du gouvernement, la qualité plutôt que la quantité. Il s'agit de ne plus gaspiller le temps parlementaire, avec au final une réforme moins rude que dans sa première version. Initialement, le droit d'amendement devait être modulé en fonction de la taille des groupes parlementaires, mesure finalement écartée, mais ça ne suffit pas à calmer l'opposition, notamment au Sénat, qui détient les clés pour faire adopter cette révision constitutionnelle.
Yael Gauz, chef du service politique à France Inter, au chapitre judiciaire, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sera convoquée le 22 mai prochain chez les juges d'instruction, interrogée en tant qu'ancienne directrice de Business France, l'organisme public qui avait organisé en janvier 2016 une très coûteuse soirée pour Emmanuel Macron à Las Vegas. Muriel Pénicaud bénéficiera du statut de témoin assisté et ne risque à ce stade aucune mise en examen.
8h11, retour maintenant sur le premier accident mortel entre une voiture autonome et un piéton. C'était il y a 2 mois aux États-Unis.
En Arizona exactement, un véhicule sans conducteur, d'Uber, renversait une femme traversant la route. Elle est morte des suites de ses blessures. On en sait un peu plus aujourd'hui sur les raisons de cet accident. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
La voiture avait vu la piétonne mais a choisi de ne pas s'arrêter.
Oui, car la voiture ne l'a pas interprétée comme étant une piétonne marchant à côté de son vélo, mais plutôt un objet sans danger, par exemple un sac plastique ou des feuilles mortes qui virevoltent, ce que l'on appelle un faux positif, et donc a décidé de continuer sa route. Les nombreux capteurs positionnés sur une voiture autonome repèrent tous les obstacles qui l'entourent, souvent mieux que l'œil humain, mais pour éviter qu'elle freine brusquement à cause d'un oiseau qui passe à proximité, un logiciel est là pour interpréter les dangers. Et selon les premiers éléments d'Uber publiés par le site américain The Information, les ingénieurs d'Uber auraient baissé la sensibilité de ce logiciel pour que la conduite de ces voitures autonomes soit moins brusque. C'est cette modification qui aurait donc empêché la voiture de freiner ou éviter la cycliste de 49 ans qui, on le rappelle, était en train de traverser une 2x2 voies de nuit dans la périphérie de Phoenix en dehors d'un passage protégé. Les conclusions de l'enquête du Bureau national pour la sécurité routière américain sont attendues dans les prochaines semaines. Il doit statuer sur la responsabilité d'Uber dans cet accident.
Merci Hélène Chevalier, spécialiste nouvelles technologies à France Inter. Direction Cannes maintenant, ses stars, ses strass et ses paillettes. Soirée d'ouverture hier, très réussie grâce à la poésie d'Edouard Baird. Aujourd'hui, place au cinéma avec 2 films en compétition. Yomedine, premier film égyptien, un road movie qui met en scène un lépreux à la recherche de ses racines. Et puis, deuxième long métrage, L'été, un nouveau film du russe Kirill Serebrennikov qui, avant même sa présentation au public, fait déjà beaucoup parler sur la croisette puisque depuis 8 mois, le cinéaste est assigné à résidence. Corinne Pellissier.
Son nom sera évidemment sur toutes les lèvres et son visage dupliqué sur un petit badge que vont porter ce soir ses comédiens et son équipe technique. Une montée des marches par procuration pour le réalisateur Kirill Serebrennikov, arrêté pour détournement d'argent en août 2017, alors qu'il était en train de boucler le tournage de son nouveau film, L'été. Une épopée rock en noir et blanc, sélectionnée in extremis par le festival, au terme d'un montage jugé très laborieux par Charles-Évrard Tchekhov, le coproducteur français du film.
Kirill a l'habitude de travailler vraiment très très près de son montage. Là, il a pu le faire grâce à l'intermède de son avocat, mais il n'a pas pu communiquer avec les équipes qui devaient enregistrer encore des chansons. Et il y a une amertume qui plane, parce que c'est un film qui n'a pas un message profondément politique.
Rien à voir, a priori, avec ce dont on accuse le réalisateur, mais vu de France, à l'examen de la personnalité de Serebrennikov et de son approche décomplexée de certains sujets, le doute est permis.
C'est une affaire qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait la lire d'ici. C'est probablement cette façon très facile de discuter des choses, de la société, des différentes façons de penser, qui peut probablement gêner certains.
Kirill Serebrennikov risque, s'il est condamné, jusqu'à 10 ans de prison. À Cannes, Corinne Pellissier, France Inter.
Allez, on termine avec du sport. Ils se sont battus comme des lions. Ils sont restés debout et dignes, mais cela n'aura pas suffi. Les semi-amateurs des Herbiers, les Vendéens, se sont donc inclinés en toute logique face au rouleau compresseur parisien en Coupe de France. Mais pas de déculotté, comme certains le redoutaient. 2-0, score plus qu'honorable. L'entraîneur des Herbiers, Stéphane Massala, était soulagé de voir son équipe ne pas s'effondrer. Mieux, il y a même cru à un moment.
Un sentiment de fierté parce que on n'a pas pris une valise. On s'est accroché. J'ai vraiment vu ce que c'était que le très haut niveau. J'ai vraiment aimé ce match. J'ai aimé mes joueurs qui se sont accrochés. J'ai aimé le PSG qui a joué. C'est vrai que c'est dommage. Sur la fin, on aurait presque pu mettre ce petit but qui nous aurait fait tellement de bien. Mais bon, félicitations au Paris Saint-Germain. Ils ont encore rapporté ce trophée. Félicitations à mon équipe. Non, il n'y a pas de regret parce qu'ils ont eu un moment d'occasion. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avoue que je me suis dit sur un malentendu, on va peut-être égaliser. Mais bon, non, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont dominé. Ça va très vite. Mais mes joueurs n'ont pas baissé la tête, se sont accrochés. Je pense que c'est le principal.
L'entraîneur des Herbiers, Stéphane Massala, au micro de Xavier Monferrand. Tout le monde est content, tout le monde a gagné.
Merci, c'était le journal de Sébastien Logénie.